Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 46e numéro du coin lecture. L'auteur à l'honneur aujourd'hui est David Louyot. Né en 1975 à Bourg-en-Bresse, il vit désormais à Périgueux. Ancien archéologue, David Louyot se passionne pour l'histoire et la racine des choses. Ceci explique sans doute pourquoi son premier roman, La purée de nous hôtes, retrace un moment de notre histoire récente à travers une fresque familiale qui est aussi un roman initiatique. Je vous propose maintenant de découvrir les deux premiers chapitres de La purée de nous hôtes de David Louyot. Bonne écoute! Chapitre 1. Paul. 12 ans. Qu'est-ce qu'avoir 12 ans? Est-ce seulement presque deux fois l'âge de raison? Mensonge affectif des parents pour faire croire à leur progéniture de 7 ans qu'elle est devenue grande désormais? Ou est-ce surtout l'âge où l'enfant commence à appréhender le côté visible de son corps, à éprouver les incertitudes de l'adolescence et à exprimer des questions encore empreinte de naïveté sur le monde réel et malheureusement accablant des adultes? Est-ce aussi la première engueulade du professeur de PS ou d'histoire pour manque de sérieux et les premiers accros avec les congénères de la même ancienneté en vue de construire sa personnalité? Mais à 12 ans, est-on capable de prendre conscience et de comprendre l'essence insondable de l'existence? Paul Bonopéra allait en tout cas y être confronté en 1987, alors qu'il venait justement d'atteindre cet âge. En cette année 1987, n'en déplaisait à un grand poète de la chanson française, le bien nommé Claude François, les Beatles n'étaient plus quatre garçons dans le vent. Ils ne chantaient même plus du tout ensemble d'ailleurs, la mort de John Lennon ayant prématurément mis fin à leur aventure commune. Ce dernier fut assassiné à New York le 8 décembre 1980, après une soirée de travail en studio et alors qu'il rejoignait son appartement du Dakota Building près de Central Park. Sous les yeux de Yoko Ono, Mark David Chapman, un homme profondément religieux mais surtout complètement déséquilibré, l'abattait de 5 balles. Quelques heures plus tôt, Lennon lui avait accordé un autographe. Mais revenons en 1987. Cette année-là, en France, le pays de Paul Bonopéra, des grands moments de musique comme Joe le Taxi, Bad ou encore Viens boire un petit coup à la maison faisaient un carton au top 50 présenté par Marc Toesca. Le 17 mai, au désespoir de millions de consommateurs de Cronenbourg et d'adeptes du ballon rond, Michel Platini annonçait qu'il mettait fin à sa carrière de footballeur professionnel. La culture française faisait aussi un bond en avant avec la privatisation de TF1 et notamment les débuts de la diffusion du Club Dorothée. Cette émission donnait, à ce moment, la possibilité à une multitude d'enfants de comprendre le sens de la vie au travers de séries truculentes telles que « Hélène et les garçons » ou « Salut les musclés ». Jean-Marie Le Pen s'occupait quant à lui des parents et jetait à nouveau les bases d'un monde meilleur en leur proposant de renvoyer des milliers d'immigrés et d'isoler les malades du sida dans des sidatoriums. Dans Le Monde, 1987 fut marqué par la publication du rapport Brundtland intitulé « Our Common Future » qui définissait le développement durable. En substance, le développement durable, c'est un développement où, si l'être humain continue à polluer, il risque de ne plus jamais se développer. Aux États-Unis, les cours s'effondraient à Wall Street le 19 octobre. Même si les trois quarts de la population mondiale ne comprenaient rien aux subtilités de la bourse, cette journée fut nommée le lundi noir. Enfin, parmi les événements majeurs de 1987, Mikhail Gorbatchev accélérait la libéralisation et la démocratisation de l'URSS. Peu de personnes savaient à ce moment-là que cet homme deviendrait l'un des artisans d'un des plus grands moments de liberté du XXe siècle, la chute du mur de Berlin. À cet âge transitoire entre l'enfance et l'adolescence, entre les jouets et le scooter, entre sa maman et ses futures conquêtes, Paul Bonopéra était bien loin de toutes ces considérations culturelles, économiques et politiques, hormis peut-être le Club Dorothée, même s'il préférait à cette époque récréer à deux. Mais ce que ce petit bonhomme brun et un peu grassouillé de la première génération télé aimait par-dessus tout, c'était un dessin animé intitulé « Il était une fois l'homme ». Après un générique adaptant la toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, ce programme retraçait l'histoire de l'humanité en 26 épisodes de 26 minutes. Les principales époques étaient abordées en mettant en scène une cellule familiale. Les diverses aventures étaient rythmées, en outre, par les commentaires hors champ de Roger Carrel. Une horloge dotée de deux yeux, de deux bras et parfois d'une bouche permettait aussi de se repérer dans la chronologie en indiquant la date correspondante aux événements évoqués. Pourtant, même si certaines références étaient souvent difficilement accessibles, Paul adorait ce programme. Il n'aurait pu l'expliquer. Il l'adorait. Un point, c'est tout. En tout cas, cette passion de Paul était telle que chaque jour de la semaine, en sortant de l'école, il n'avait qu'une seule idée en tête, préparer une cassette vidéo pour enregistrer les 5 minutes de ce dessin animé qui était retransmis à partir de 19h50 sur FR3 du lundi au vendredi. Ce rituel n'était pas sans poser quelques problèmes avec son père, car « Il était une fois l'homme » amputait de quelques minutes le 20h de TF1 présenté par Bruno Mazur. Et une des choses que le père de Paul ne supportait pas, c'était de manquer l'exposé des principaux événements de la journée, malheureusement toujours au début du dit journal télévisé. Cependant, si l'on prend en considération que tous les épisodes de son dessin animé favori étaient également retransmis dans leur intégralité chaque dimanche à 17h, on peut se demander ce qui poussait tous les soirs Paul à les enregistrer en risquant d'affronter le courroux médiatique de son père. Tout simplement parce qu'il était encore un enfant et qu'un enfant est toujours pressé de posséder les choses qu'il désire. Et si l'on devait noter un des premiers traits de caractère de Paul Bonopéra, c'était son manque de patience, et cela même par rapport à beaucoup de ses congénères de son âge. Il voulait tout et tout de suite. Pour le démontrer, il suffit de s'intéresser à sa passion pour la bande dessinée. Paul aimait lire toutes les semaines le journal de Spirou. Toutefois, un des inconvénients de cet hebdomadaire, Paul pensait d'ailleurs à cette époque que ce mot servait à désigner un lointain cousin du dromadaire, était que seulement deux pages des aventures de Spirou, la star de la revue Himself et le héros préféré de Paul, étaient publiées chaque mardi. Ainsi, pour disposer de l'histoire complète, les lecteurs devaient patienter environ 24 semaines. Cette réalité était intolérable pour le petit Bonopéra. Pour lui, le problème n'était pas tant la frustration d'atteindre la fin de l'aventure, c'était de posséder matériellement et rapidement celle-ci. Et ses parents ne lui accordaient pas toujours l'argent nécessaire pour acheter le journal de Spirou. Il ne pouvait pourtant pas prendre le risque de disposer d'une histoire incomplète. Ce fut pour cette raison qu'un jour, alors qu'il venait d'avoir 10 ans, il mit sur pied un plan machiavélique. Puisque la rédaction du journal de Spirou lui imposait la patience, il emploierait les grands moyens et déchirerait les deux pages des aventures de Spirou toutes les semaines, à l'insu de tous ces adultes qui ne comprenaient rien à sa vie de préadolescent. Avant tout, il dut choisir une librairie pour accomplir son méfait. Cette décision ne fut pas bien compliquée car Paul vivait à cette époque dans une agglomération de la région centre d'environ 20 000 habitants, la plupart des agriculteurs ou descendants d'agriculteurs. Ainsi, seulement deux librairies avaient ouvert leurs portes dans cette petite ville. Chacune d'entre elles était située à une des extrémités de la rue piétonne. L'une d'entre elles portait le nom de « Maison de la presse » et se trouvait sur la place principale vers laquelle menait ladite rue au sud. Et ce fut dans ce sanctuaire de la littérature que Paul choisit d'opérer ses vols à répétition. Sa stratégie lui paraissait sans faille. Tous les mercredis, il partait de chez lui avec un sac à dos contenant uniquement une chemise en carton, car les pages arrachées ne devaient surtout pas être froissées ou subir un quelconque dommage. Arrivé à la maison de la presse, il s'assurait tout d'abord, par l'intermédiaire de multiples coups d'œil, qu'il pensait être d'une discrétion à toute épreuve, que les employés de ladite librairie étaient occupés avec d'autres clients ou à des travaux d'inventaire, mais surtout que le propriétaire de ce magasin n'était pas dans les parages. C'était un homme petit, trapu et chauve qui répondait au doux nom de Monsieur Brochu lorsque ses vendeurs s'adressaient à lui. Il était essentiel que ce dernier ne soit pas là pour commencer l'opération Spirou, car plusieurs délinquants boutonneux et prépubères s'étaient cassés les dents lorsqu'il était présent. Il réussissait toujours à les surprendre au moment de leur larcin, à croire qu'il possédait un sixième sens. Une fois assuré que M. Brochu était bien parti faire une course ou dans la réserve, Paul se dirigeait au fond du magasin et tournait à droite dans un renfoncement où se trouvaient toutes les revues. Pendant quelques instants, il simulait une lecture assidue du journal de Spirou et observait une dernière fois toutes les personnes présentes dans la pièce. Ensuite, son pouls s'accélérait, son estomac se nouait, des gouttes de sueur commençaient à perler sur son front. Puis tout allait très vite. Il arrachait rapidement les deux pages tant convoitées, les plaçait nerveusement à plat sous son pullover en essayant de ne pas les froisser. Le méfait accompli, il passait devant tout le monde avec son attitude la plus détachée et une main sur le ventre pour éviter que les feuilles ne s'échappent. Puis il sortait discrètement de la librairie pour se mettre à courir à en perdre haleine dès qu'il avait posé les pieds dans la rue. Une fois à l'abri, il rangeait minutieusement les pages dans la chemise cartonnée. Plus tard, Paul se demanderait tout de même comment il avait réussi à opérer ce vol plus d'une vingtaine de fois sans se faire prendre. Il n'en décida pas moins, à l'aube de ses 11 ans, de mettre un terme à sa carrière de criminel. Non pas qu'il avait peur de faire le vol de trop, mais surtout parce que Spirou avait été remplacé dans son cœur par un Gaulois irréductible qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Aussi, ses parents lui octroyaient maintenant une somme hebdomadaire quantitativement suffisante pour acheter au moins un album par mois. Chapitre 2 : La sorcière du kiosque. La seconde librairie était quant à elle située en bordure de la rivière locale, à l'entrée d'un pont qu'il fallait traverser pour accéder à la rue piétonne. Et Paul ne l'aurait jamais choisie pour accomplir ses vols. En réalité, on ne pouvait pas parler de librairie. C'était une sorte de bloc rectangulaire dont les fondations avaient été construites à l'aide de pierres irrégulières jointoyées avec du ciment et dont les murs étaient recouverts de lattes de bois verdâtre. Isolée, devant le pont, cette bâtisse était sans doute l'un des derniers kiosques à journaux. Paul le connaissait bien, dans la mesure où il était à 5 minutes de marche de chez lui. Cependant, il n'y allait que très rarement, car il en avait peur. Ce n'était pas tant le lieu lui-même qui l'effrayait, mais ce qu'il y avait à l'intérieur. En effet, cet endroit hébergeait un monstre hideux capable de terroriser une armée entière de vikings assoiffés de sang. C'était une vieille sorcière, au nez crochu, sur lequel trônaient des lunettes qui cachaient des petits yeux cruels et perçants. Personne ne l'avait jamais vu quitter sa caisse, à tel point qu'aucun être vivant ne savait à quoi ressemblaient ses jambes. Pour Paul, celle-ci était en fait d'immondes tentacules qui lui servaient à immobiliser sa proie et son appendice nasal dissimulait un dard contenant un poison mortel. Il considérait, bien entendu, que les enfants étaient son mets préféré, car plus tendres à manger et plus faciles à attraper. Paul était entré dans l'antre de la bête quand il avait 8 ans. C'était arrivé un matin où il avait accompagné son grand-père maternel, Joseph, dans ses déplacements quotidiens entre son appartement et le bar où ce dernier avait ses habitudes. Pour son entourage, Joseph était encore, du haut de ses 71 ans, un bel homme pour son âge. Les rides abondantes autour de ses yeux verts témoignaient d'une personnalité joyeuse et moqueuse. Il avait gardé presque tous ses cheveux, qui étaient tout de même passés du roux au blanc-gris. Il suçait perpétuellement des bonbons et semblait très grand pour un enfant comme Paul, quoiqu'il ne mesurât qu'1,70 m, et qu'il avait toujours eu le dos voûté. Joseph avait en effet beaucoup de difficultés à se mouvoir et se déplaçait tout le temps avec une canne, car il était atteint de spondylarthrite ankylosante. Cette maladie, sans doute héréditaire, touchait en fait sa colonne vertébrale et lui provoquait ainsi d'horribles douleurs. Joseph rêvait, sans trop y compter, qu'un jour il gagnerait suffisamment d'argent pour acheter une maison pour tous ses enfants et petits-enfants. Mais quand par bonheur il réussissait à choisir les bons chevaux au tiercé, il remportait seulement de quoi arrondir sa retraite, qui était bien maigre. Il s'avérait en tout cas que le bar où il pariait était situé juste en face du kiosque de la vieille sorcière. Par un beau mercredi de printemps, Joseph avait donc proposé à Paul de l'accompagner au café Le Neptune, où il allait traditionnellement. Ce bar se trouvait à l'angle de l'extrémité méridionale de la rue principale de la ville et faisait face au fameux kiosque à journaux. Joseph y était connu comme le loup blanc, car il y passait une grande partie de ses matinées à jouer au tiercé ou à la belote avec tous ses amis retraités. Le propriétaire des lieux, un brun de taille moyenne et au physique assez élancé, répondait au nom d'Anselme Renaudin. Il avait hérité ce café de ses parents et l'avait fait à son tour prospérer.
« Salut la compagnie !»
dit Joseph en entrant, avec un accent qui dissimulait mal ses origines espagnoles. Anselme et trois hommes d'un certain âge, seuls clients à cette heure, lui rendirent chaleureusement son salut. Paul et Joseph s'installèrent à une table, Anselme s'approcha d'eux.
« Alors, comment ça va depuis hier ? »
s'enquit-il auprès de Joseph.
« tout va bien, » répondit celui-ci. « J'espère juste avoir plus de veines au tiercé aujourd'hui. »« Si tu ne t'obstinais pas à choisir les canassons en fonction de la date de naissance de tes filles et ta femme, tu gagnerais plus souvent aussi, »
répliqua l'autre sur un ton goguenard avant de porter son regard sur Paul.
« Et que vois-je là ? Tu nous as amené un de tes descendants ? Comment t'appelles-tu, mon petit ?»«
Paul. »
« Et qu'est-ce que t'aimerais que je te serve, Paul ?»«
Un lait fraise, s'il vous plaît. »«
Et un lait fraise pour le petit bonhomme, »
dit-il à haute voix en retournant vers son bar.
« Et pour toi, Joseph, un expresso comme d'habitude ?»
Joseph acquiesça.
« Et c'est parti, mon kiki !»
enchaîna Anselme. Une fois ce dernier parti pour préparer les boissons, Joseph mit sa main dans sa poche droite et commença à chercher de la monnaie.
« Paul, peux-tu me rendre un service, s'il te plaît »
demanda-t-il.
« Oui, papy.
Peux-tu aller me prendre ma revue au kiosque en face ? Tu serais bien gentil, car mon dos me fait encore souffrir le martyr. »«
Quoi ? »
dit Paul, la voix un peu vibrante.
« Pourquoi ? » ?»«
Pour que je puisse la lire, tiens !»
répondit Joseph d'un ton amusé.
« Allez, arrête de te moquer de moi, va me la chercher !»
Bien que pétrifié par la peur, Paul prit la monnaie et sortit du bar. Il traversa la route qui le séparait du kiosque. Il s'apprêtait à saisir la poignée de la porte vitrée de l'entrée quand il s'aperçut que sa main tremblait. Il respira une bonne bouffée d'air et s'introduisit dans la petite bâtisse. La vieille sorcière était là, toujours derrière sa caisse, et il n'y avait personne d'autre. Dès son arrivée, elle avait posé ses yeux noirs et perçants sur Paul. Il crut même, l'espace d'un instant, la voir lécher ses lèvres décharnées.
« Bonjour !»
lança-t-elle rapidement d'une voix terne et grinçante, sans cesser de le scruter. En ouvrant la bouche, elle fit apparaître des dents jaunâtres plantées de travers.
« Bon, bonjour !»
répondit Paul. Il chercha avidement du regard la revue de son grand-père, mais tous les murs étaient remplis de publications diverses. Il était presque impossible de s'y retrouver sans avoir fait des études supérieures dans le rangement de revues. Et il était bien sûr hors de question de demander de l'aide à la propriétaire des lieux. La peur commença à lui faire perdre tous ses moyens. Ses jambes tremblèrent à leur tour et sa vue se troubla progressivement.
« Que veux-tu ? Tu as l'air de chercher quelque chose ?»
lança la sorcière du kiosque en fronçant les sourcils.
« Je cherche une revue pour mon grand-père. »
Les deux guiboles du jeune garçon allaient le lâcher.
« Et c'est quoi son nom ? »
s'informa-t-elle toujours d'une voix glaciale.
« Tire ces magazines, madame. »«
C'est sur ta droite, en bas à gauche, derrière la revue Le Cheval, mon ami. »
Paul déporta son regard vers l'endroit qu'elle lui avait indiqué. Cependant, la peur l'empêchait de distinguer les choses convenablement.
« Je ne la vois pas, »
réussit-il tout de même à dire.
« Bouge pas, je vais te montrer. »
À ce moment, tout se déroula rapidement. La vieille sorcière commença à se lever et à vouloir quitter sa caisse. Paul était convaincu qu'elle allait le dévorer. Il n'attendit pas d'apercevoir ce qu'elle avait en guise de jambes. Il se rua vers la sortie, passa la porte vitrée et traversa à toute vitesse la route en manquant de se faire renverser par une voiture. Il s'introduisit à nouveau dans le bar où était son grand-père pour se cacher sous la table.
« Po, que t'arrive-t-il ? »
interrogea Joseph d'un air étonné en voyant son petit-fils entrer si rapidement.
« La sorcière a voulu me dévorer, »
répondit Paul en se jetant dans ses bras les larmes aux yeux.
« La sorcière ? Quelle sorcière ? »
« La sorcière du kiosque, celle qui a des tentacules visqueuses et qui pue !»
Personne dans le café n'avait échappé à la scène, et lorsque Paul prononça ces paroles, la plupart des clients lancèrent tous des rires sonores, sauf Anselme qui fronçait les sourcils. Paul apprit plus tard que la sorcière du kiosque était en fait sa mère. Joseph, quant à lui, se contenta de sourire et serra Paul tendrement, et cela alors que son dos le faisait atrocement souffrir. À ce moment, ce petit garçon de 8 ans se sentit enfin rassuré, car il savait qu'il ne craignait rien avec son grand-père. Vous venez d'entendre les 2 premiers chapitres de La purée de nous autres, roman de David Louillot. Si vous voulez connaître la suite, vous pouvez vous le procurer sur Internet en le commandant sur Amazon. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez m'adresser des recommandations par mail à l'adresse radiolibresenperigord@gmail.com ou en laissant un message téléphonique au 05 53 46 80 24 en précisant bien le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.